Chers pèlerins de Domvény, ici, il y a 600 ans, le ciel s'est ouvert pour entrer en conversation avec l'âme très pure d'une fille de France, Jeanne. Rien n'arrêtera plus cette céleste conversation. Jeanne, recevant de ses voix conseils et encouragements pour la direction de sa vie et l'accomplissement d'une mission toute spéciale en faveur de son pays, qui était alors en grande pitié. Rien ne viendra rompre ce dialogue avec les anges et les saintes de son conseil. Ni la crainte de son père, ni les rebuffades de Baudricourt, ni la longue marche vers la France et le Dauphin, ni la soldatesque, la vie de camp, les batailles et les victoires, ni l'ivresse de la mission accomplie quand le Dauphin reçoit le sacre à Reims, ni l'amertume de l'échec quand la trahison l'a fait passer du pinacle à la prison, ni l'absurdité d'un procès truqué où la sagesse selon le monde veut confondre la sagesse selon Dieu, ni le bûcher, les flammes et le grand départ vers celui qu'elle appelle de sa voix d'épouse prête aux épousailles. Jésus, Jésus, Jésus. Car alors, elle entre pleinement dans la joie de son maître et, ce faisant, elle s'établit pour toujours dans la compagnie de ceux qui furent ses voix. Cette conversation continue aujourd'hui. Elle continue au ciel et sur terre, nous en percevons l'écho. C'est mystérieux, mais c'est ainsi. Et c'est bien parce qu'il en est ainsi, parce que nous croyons à une continuité réelle entre les événements d'il y a 600 ans et notre France de 2025, que nous sommes ici pour célébrer le commencement de cette conversation. Mais revenons sur l'épopée terrestre. Durant cette année, de 1425 à 1431, Jeanne est accompagnée de ses voix, dans les prés, à Bermond, où vous irez plier sans doute, à Domrémy, Chinon, Orléans, Reims et Rouen, comme l'égrène le puissant poème de sainte Thérèse de Lisieux. En 1429, par son action décisive, en quelques semaines, Jeanne renverse le cours de l'histoire de France. Au cœur de cette épopée, il n'y a pas d'abord l'audace, la crânerie, l'enthousiasme, la fougue, l'héroïsme. Il y a la parfaite disponibilité d'une âme à ses voix, au premier rang desquelles vient Saint-Michel. Le premier, il est venu à elle pour la conforter et la préparer à sa mission. Il indiquera Catherine et Marguerite comme les compagnes à écouter et à suivre. Entre Jeanne et l'archange s'établit un habituel échange où la jeune fille, puis la jeune femme, ou comme l'appellent ses voix, Jeanne la Pucelle, fille de Dieu, reçoit, je cite, « bon conseil, confort et bonne doctrine ». Pourquoi Dieu a-t-il donné à Jeanne comme assistant le prince de la milice céleste? Comme l'a écrit un spécialiste de la vie de Jeanne, correspondre parfaitement à la volonté de Dieu dans des circonstances extraordinaires nécessitait la conduite et le secours d'un guide extraordinaire. Michel, en effet, est un guide extraordinaire, nous le redirons plus loin. À une heure décisive de son histoire, Dieu envoie Michel à la France par l'intermédiaire de Jeanne. Michel, protecteur de la France. Cette mission confiée à l'archange éclate dans, je cite en cela Charles Péguy, le mystère de la vocation de Jeanne d'Arc. Avant d'évoquer d'autres interventions de Michel au chevet de la France, je voudrais tâcher d'entrer un peu plus avant dans cette céleste conversation, où l'âme de Jeanne fut remplie du bon conseil, confort et bonne doctrine du chef de la milice céleste. Mais pour toucher une chose si subtile, une âme très pure, illuminée par le premier des anges, il faut l'intuition et la voix des poètes qui laissent Dieu éclairer leur esprit pour dire en paroles d'homme les choses de l'esprit. Voici une page bouleversante de Peggy dans son premier texte sur Jeanne, il y aura beaucoup d'autres par la suite, où le poète évoque la prière de Jeanne à Don Rémy, ici. Ô mon Dieu, j'aime à tout jamais la voix humaine, la voix de la partance et la voix douloureuse, la voix dont la prière a souvent semblé vaine et qui marche quand même en la route peineuse. Et j'aime le regard humain quand il s'envole, ainsi qu'un trait vivant droit au ciel désirable, encore plus douloureux et doux que la parole, vaillant, vite, fidèle et beau, presque admirable. Mais je ne savais pas cette voix éternelle, et calme, et large, et plane, et blanche, et délectable, émouvante en mon âme et revivante en elle. Non, je ne savais pas cette voix admirable. Oh, je ne savais pas la voix noble des anges, la voix infatigable et qui n'est pas humaine, voix de l'accoutumance en la demeure étrange. Non, je ne savais pas cette voix souveraine, voix de la demeurance en la demeure étrange. Et je ne savais pas le regard souverain, le regard de là-haut qui descend droit en l'âme et pénétrait en moi comme une étrange flamme, le regard immortel et qui n'est pas humain. Mais à présent, je sais la voix des immortels et j'ai vu le regard des yeux inoubliables. Ô Monsieur Saint-Michel, ô Madame Catherine, ô Madame Marguerite, à présent que je sais la voix des immortels, à présent que je sais le regard de vos yeux, pourquoi m'avoir laissé aux voix de ces mortels? Pourquoi m'avoir laissé en exil de vos cieux? Mon âme s'est fondue à la voix bienheureuse, mon âme s'est unie à vos âmes sauvées. Je n'avais plus mon âme, elle était bienheureuse, en allée au pays des âmes en allée. Oh, j'étais bienheureuse et n'avais pas mon âme. Elle était avec vous et n'était pas en moi. Elle était tout à vous, je n'avais pas mon âme. Elle vivait à vous après l'étrange et moi. Pourquoi m'avoir laissé en la bataille humaine, seul à faire à présent la tâche difficile? Avant cette page mystique, Peggy nous montre une jeune fille, Jeannette, tout inquiète des événements qui se trament à des centaines de kilomètres à l'ouest de Don Rémy. « Jeannette, ils sont sauvés, ceux de Monsieur Saint-Michel, ils sont sauvés depuis 3 semaines. Oh mon Dieu, vous m'avez exaucé. Attends un peu, de qui sait-on la bonne nouvelle? D'un pèlerin qui a passé, qui s'en revient du mont. Au revoir. » Jeannette s'inquiète de ce qui se trame au mont où les Français tiennent tête aux Anglais. Elle prie. « Ô mon Dieu, donnez-nous enfin le chef de guerre, vaillant comme un archange et qui sache prier, pareil au chevalier qui, sur le mont naguère, terrassait les Anglais, qu'il soit chef de bataille et chef de la prière. » Ça n'est pas nouveau en France de s'intéresser au mont. Depuis des siècles déjà, on y a grande dévotion pour l'archange qui a établi là sa demeure. Voici une autre page littéraire et historique de notre histoire nationale qui rappelle l'importance des gens, des anges dans la vie humaine, en particulier, comme pour Jeanne, de Gabriel et Michel. C'est Roland à Roncevaux. les troubadours ont transmis la chanson éponyme où l'on pleure la mort du preux. Je cite. Le comte Roland est couché sous un pin. Vers l'Espagne, il a tourné son visage. De maintes choses, il lui vient souvenance. De tant de terres qu'il a conquises, le vaillant, de douce France, des hommes de son lignage, de Charlemagne, son seigneur qui l'a nourri. Il en pleure et soupire, il ne peut s'en empêcher. Mais il ne veut pas se mettre lui-même en oubli. Il bat sa coulpe et demande à Dieu merci. Vrai Père qui jamais ne mentit, toi qui rappelas Saint-Lazare d'entre les morts, toi qui sauvas Daniel des lions, sauve mon âme de tout péril pour les péchés que j'ai faits dans ma vie. Il a offert à Dieu son gant droit, Saint Gabriel l'a pris de sa main, sur son bras il a laissé retomber sa tête, il est allé les mains jointes à sa fin. Dieu lui envoie son ange chérubin et Saint Michel du péril. Avec eux y vint Saint Gabriel. Il porte l'âme du comte en paradis. Saint Michel du péril, c'est le nom donné au mont Saint-Michel. Saint Michel au péril de la mer. Jeanne et Roland, la Pucelle et le Preux nous renvoient tous deux à ce mont mystérieux entre ciel et terre où l'archange a établi sa demeure. Un texte fameux, la révélation concernant l'église de l'archange Saint-Michel, que les spécialistes datent avec quelque probabilité de la première moitié du IXe siècle, raconte l'origine de la construction, en 709, du sanctuaire dédié à l'archange par l'évêque Aubert, mort en 725. Après le Mont Gargan en Italie, Michel choisit la France. La dévotion à Saint-Michel pénétrera en Gaule pendant toute l'époque mérovingienne. Il suffit de nommer Lyon, Arles, Limoges, Le Mans. Le Mont Tombe, notre Mont Saint-Michel, ce petit coin de terre au milieu de la mer, deviendra au cours des siècles le symbole de la résistance, de la résilience française. Et à l'époque de Jeanne, les Anglais font tout, sans succès, pour conquérir la place. Le mont attirera la dévotion et les foules de pèlerins au cours des siècles, les grands et les petits. Un Childebert au 7e siècle dépose au mont son sceptre et sa couronne. Charlemagne fait représenter l'archange sur ses étendards avec cette inscription « Saint-Michel, patron et prince de l'Empire des Gaules ». Louis XI fondera un ordre sous son patronage. Les grands, mais les petits aussi. Ce sont les multiples confréries de tout métier placées sous le titre de Saint-Michel. Ce sont aussi, magnifiques et étonnantes, ces croisades d'enfants qui viennent de toute la France pour prier au mont l'archange protecteur. Comme si la France entière trouvait au mont Saint-Michel comme un symbole d'elle-même. Pédi synthétise cette idée dans une formule qu'il met sur les lèvres de Jeanne en prière. Car vous n'êtes pas seulement le dieu du Mont Saint-Michel, vous êtes le dieu de toute la France. Manière de dire que la protection spéciale que l'archange exerce sur le mont depuis le 8e siècle s'étend à la France entière. Et l'on trouve, la liste est longue, à toutes les époques de son histoire, les marques de la dévotion des Français pour Saint-Michel. Un auteur qui a écrit sur cette dévotion dit ceci. Il y a quelque chose de supérieur à la monarchie, de supérieur au pèlerinage, aux ordres militaires et aux confréries. C'est l'âme même de la nation française, cette âme que Michel a prise sous sa tutelle en apparaissant sur le mont Tombe, cette âme qu'il a reçue à nouveau en garde du paladin mourant, Roland, et qu'il a encore faite sienne en suscitant Jeanne d'Arc. Saint Aubert au mont Tombe, Roland à Roncevaux, Jeanne à Don Rémy, l'âme de la nation française. Mais plus près de nous, en 1897, je relève ce témoignage, au Congrès national catholique, on vote par acclamation la résolution suivante. Je cite, que la dévotion envers le grand prince Saint-Michel soit propagée et qu'elle devienne pour nous ce qu'elle était pour nos pères, la dévotion française par excellence. 1912, à la veille des événements qui déchireront l'Europe, les évêques de France au Mont-Saint-Michel prononcent la consécration nationale à l'archange. Glorieux Saint-Michel, baptisé la première des nations dans le sang du Christ, la France vous aima la première. Aussi, vous êtes-vous ingénié à faire d'elle, à votre image et à votre exemple, le bon sergent de Dieu. Des champs de Tolbiac au sommet du Mont-Tombe, des sommets du Mont-Tombe au vallon de Don Rémy, des siècles reculés au temps où languit notre vie, vous avez écrit les meilleures pages de notre histoire. Aussi la France reconnaissante, aujourd'hui comme autrefois, vous honore sur la montagne sainte que vous avez choisie, que l'étranger ne foula jamais en vainqueur, où la foi vous éleva votre temple le plus merveilleux et le plus célèbre. Oui, Michel est là, proche et protecteur de la France, spécialement aux heures dures et sombres. Tâchons de mieux connaître celui que Dieu a donné comme protecteur à notre nation. Son nom, Michael. Quis ut Deus, qui est comme Dieu. Ce nom est une exclamation, une réponse au délire de Satan qui s'est voulu égal à Dieu. Michel, c'est l'ange qui dirige le combat contre les mauvais anges dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'archange que l'on trouve si souvent dans la liturgie, tant en Orient qu'en Occident. En Orient, avec le sens de la formule, on l'appelle le saint et glorieux archistratège des armées angéliques, Michel. Voici quelques expressions tirées des livres byzantins. Nous tenant dans ton temple sacré, et là te magnifiant pieusement, comme le chef des immatérielles armées, archistratège divin, nous te supplions avec foi, arrache-nous à la tyrannie de l'ennemi et de la géhenne nous menaçant, par tes saintes prières, délivre-nous. Ou encore, chef des célestes esprits, à ceux d'en bas tu fus donné, excellent archange Michel, comme forteresse et rempart, comme glaive pour terrasser les ennemis. Dans notre liturgie d'Occident, un exemple entre tous, dans l'offertoire de la messe de Requiem. À l'heure du jugement des âmes, nous demandons que le porte-étendard Saint-Michel les conduise vers la lumière sainte. C'est là, en effet, une des grandes fonctions de Saint-Michel. Comment nomme-t-on cette fonction ? Psychopompe. Il guide, en effet, les âmes vers le ciel. Il est aussi psychostase. Il pèse les âmes au jugement dernier, avant d'emmener les élus au paradis. De là vient la représentation classique de Saint-Michel telant la balance. Je pense à cette image d'une grande beauté peinte par Roger van der Weyden, une douzaine d'années après l'exécution de Jeanne. L'archange, entouré d'anges sonnant de la trompette, est en habit liturgique. Il porte aube avec orfroi, étole diaconale et chape rouge. Dans la main droite, il tient une balance à double plateau. Dans chaque plateau, un homme. Dans le plateau de droite, plus élevé, l'homme regarde vers le ciel dans une attitude de reconnaissance. Il est sauvé. Dans le plateau de gauche, qui penche vers le bas, l'homme regarde sous lui le visage terrifié. Il est damné. L'archange, lui, fixe le spectateur d'un regard hypnotique qui inscrit au fond de l'âme cette double idée, l'impartialité d'un jugement qui accomplit toute justice, la solennité de ce moment où chaque âme est jugée selon ce qu'elle a fait. Souviens-toi, ô frère humain, de ta dignité. Tes actes, tous tes actes ont une valeur infinie et résonnent pour l'éternité. On aime peu, aujourd'hui, même dans l'Église, même parmi les catholiques, cette dimension de la justice divine qu'exprime la balance de Saint-Michel. On a tort. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne, les deux attributs divins, justice et miséricorde. C'est la grandeur de Dieu d'unir ces deux attributs que nous avons tant de mal, nous, humains, à composer l'un avec l'autre. Contemplez, chers pèlerins, cet archange du jugement. Il ne laisse pas indifférent et invite, par son regard, à une vie droite, ouverte aux lumières d'en haut. Nous voyons donc tout au long de son histoire la France accompagnée de Saint-Michel. Car oui, les anges existent. Le catéchisme enseigne l'existence des êtres spirituels, non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Cette présence céleste au chevet d'une nation, à l'instar de Saint-Michel auprès de la France, nous invite, me semble-t-il, à deux choses. D'abord, tâchez d'entrer dans le projet divin. Si Dieu, en effet, envoie ses messagers auprès d'une personne ou d'un peuple, c'est qu'il a un projet, c'est qu'il a un message à lui communiquer. Pensez à Notre-Dame qui reçoit Gabriel. C'est le plus grand projet qui ait vu le jour, savoir le mystère de l'incarnation. Dieu qui prend chair dans le sein de Marie. Mais pensez au peuple hébreu quittant l'esclavage d'Égypte précédé d'un ange. Il s'agit de libérer le peuple élu pour y faire gagner la terre promise et écrire par cette histoire à jamais le type, l'image, l'esquisse de l'histoire de l'humanité, savoir quitter l'esclavage du péché pour entrer dans la terre promise qui est Dieu lui-même, entouré de la compagnie des anges et des saints. Pensez à Jeanne, instruite par Saint-Michel, assistée par Gabriel. Elle doit libérer le royaume et faire sacrer le dauphin. Dans tous ces cas, dans tous les cas, il y a élection, choix de Dieu. Comme tout choix, il se réfère à une volonté, un amour. Comme tout choix divin, cet amour est libre et gratuit. Pourquoi Jeanne et la France? C'est l'effet d'un choix. On peut simplement s'efforcer de saisir les hautes convenances, la sagesse de ce choix. Regardons Jeanne. À la fois, il paraît risible de choisir une petite jeune fille d'un village reculé, bonne pour tisser et coudre. Mais à l'expérience, elle se révèle tout à fait capable de sa mission qu'elle illustre précisément par sa capacité à déjouer la sagesse trop humaine. La sagesse de Jeanne, éclairée par ses conseils, spécialement Michel, remet à l'endroit la sagesse humaine. Ce point est très manifeste dans cet épisode de la vie de Jeanne que l'on nomme la triple donation. Écoutez, c'est éloquent. Jeanne demande au roi Charles de lui donner son royaume. Il s'exécute devant notaire. Jeanne donne ce royaume que Charles lui a donné à Jésus-Christ. Jeanne, enfin, fait savoir à Charles que Jésus-Christ lui redonne son royaume. Un spécialiste de Jeanne a écrit « Par elle, Jeanne, Dieu renouvelle son choix de la race royale de France et de ce pays. Il confirme que la France et sa terre de prédilection. N'est-elle pas le royaume d'Hélice, fleur de la Sainte Vierge et du roi David? Ne peut-on y voir le signe que cette terre de France est bien le doux jardin du Christ? Comment expliquer autrement le fait unique que ce grand royaume soit symbolisé par trois fleurs, là où les autres nations de l'Europe médiévale se plaisent à se comparer à des animaux tous plus puissants les uns que les autres. Sagesse d'en haut qui se reflète ici-bas par l'intermédiaire de Jeanne sous les conseils de Saint-Michel. Mais la présence des anges dans la vie des personnes et des peuples nous invite à une deuxième attitude. se laisser entraîner vers Dieu par ses anges. Les anges viennent à nous, certes, et pour intervenir dans des réalités très concrètes de notre monde. Ils sont envoyés, missionnés. De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu, dit le catéchisme, parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Ils sont les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole. Mais nous aurions tort de garder les yeux tournés vers la glèbe. Ils viennent jusqu'à nous, oui, mais pour remonter ensuite jusqu'à Dieu et nous attirer avec eux jusqu'à lui. Ne manquons pas la source. Avez-vous à l'esprit cette image du songe de Jacob au livre de la Genèse? Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Les anges montent et descendent. Quand ils descendent, ils viennent à nous. Et quand ils montent, ils nous conduisent à Dieu. Les anges nous aident ici-bas pour nous soutenir dans notre marche vers notre source, Dieu Trinité. Toute la vie de l'Église, dit le catéchisme, bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges, et spécialement pour notre retour à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à Domrémy en pèlerinage, nous souvenant de Jeanne et de cette conversation qui a commencé il y a 600 ans. Voulons-nous entrer dans cette conversation? Croyons-nous que nous pouvons y entrer? Je le crois. Pour vous, pour moi, c'est bien la raison de notre venue ici. Il y a pour nous, pèlerins de Domrémy, un enjeu personnel. La prière de Jeanne doit nous inspirer. L'intimité qu'elle eut avec Dieu et ses voix est le fruit d'une élection, certes, mais aussi d'une correspondance en elle à la grâce reçue. Et vous recevez aussi des grâces. Y correspondons-nous. Cette profondeur de vie mystique doit nous inciter à entrer nous-mêmes dans cette conversation céleste. Un moyen simple, radical, à la portée de tous, l'oraison. Si nous nous laissons enseigner par l'exemple de Jeanne, nous ne manquons pas pendant ces 2 jours. Nous n'hésiterons pas pendant ces 2 jours à prendre du temps à la chapelle de Bermond, à l'église de Greux ou Domrémy, ou ici même à la basilique, pour la prière silencieuse. Il y a, pour nous, pèlerins de Domrémy, en plus d'un enjeu personnel, un enjeu social, un enjeu politique. Par l'épopée de Jeanne, nous voyons les anges, Michel en particulier, intervenir dans notre histoire. Une histoire concrète, la libération de notre territoire. Cela nous invite à regarder les choses du temps sous le regard de la foi. Tout n'est pas indifférent. Il y a des choses qui plaisent ou non à Dieu. Il nous revient de faire ici-bas sa volonté, comme nous le demandons chaque jour dans le Pater, et aussi dans l'ordre politique. Léon XIV l'exprimait naguère à des politiques venus de France en visite jubilaire à Rome. Je cite « Le salut que Jésus a obtenu par sa mort et sa résurrection englobe toutes les dimensions de la vie humaine, telles que la culture, l'économie et le travail, la famille et le mariage, le respect de la dignité humaine et de la vie, la santé, en passant par la communication, l'éducation et la politique. Le christianisme ne peut se réduire à une simple dévotion privée, car il implique une manière de vivre en société, empreinte d'amour de Dieu et du prochain, qui, dans le Christ, n'est plus un ennemi, mais un frère. » Ce n'est pas Léon XIII au XIXe siècle que je vous cite, c'est Léon XIV au XXIe siècle, il y a un mois. Une manière très concrète d'exprimer ce souci du spirituel qui s'exprime dans le temporel serait peut-être de redonner vie à ce pèlerinage au sanctuaire dédié à la Pucelle, fille de Dieu, ici, à Don Rémy. Cette désaffection relative que nous contrecarrons ces jours-ci par notre présence nombreuse à ce grand pèlerinage de Don Rémy, cette désaffection, dis-je, ne doit pas durer. Il faut que des énergies se lèvent pour redonner vie à ce si beau sanctuaire. Cette restauration sera le signe, le symbole et l'instrument d'une restauration spirituelle, la joie et la fierté d'être français et catholique à l'instar de Jeanne. Que Saint-Michel, qui fut son guide et son soutien dans son épopée, nous soit une aide. Qu'il reçoive de nous, comme nos pères sur le fer à toutes les générations, les hommages d'affection et de dévotion pour l'assistance qu'il procure sans cesse et depuis longtemps à notre chère patrie. Rentrons dans sa compagnie, dans sa conversation. Ne soyons pas, chers pèlerins, indignes d'un tel patronage. Saint-Michel, de vos lumières, éclairez-nous. Saint-Michel, de vos ailes, protégez-nous. Saint-Michel, de votre épée, défendez-nous.